93.8 MHz ou FM. Dans quelques instants, votre émission La Voix des Vétérans, une émission offerte par la Fondation du Collège du Travail et animée par Christiane Wyst. Qu'est-ce que ce Collège du Travail? C'est une fondation créée en 1978 par le syndicaliste genevois de la FOBB, Lucien Tronchet. Les buts de cette fondation sont, selon l'article 2 des statuts, et je lis, de promouvoir la recherche sociologique, notamment par des publications concernant les conditions sociales de la vie des travailleurs de Genève à travers les hommes et les événements du temps passé. Eh bien, la voix des vétérans, c'est cela. Donner la parole aux anciens ouvriers pour qu'ils racontent leurs bons et mauvais souvenirs de leur vie de travailleurs, mais aussi pour qu'ils donnent leur opinion sur le monde actuel. Nous allons donc leur donner la parole tous les mardis de 14 à 15 heures. Cette émission est reprise en différé le jeudi de 14 à 15 heures. Le Collège du Travail a la chance de pouvoir réaliser cette émission sur Radio Zone, je répète, 93.8 MHz ou FM, une radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas ailleurs. Dans un instant, après un peu de musique, Christiane vous présentera son émission.
De la Voix des Vétérans, bonjour et merci à Jacqueline Berenstein-Wavre, présidente de la Fondation du Collège du Travail, d'avoir introduit cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Charles Pellegrini, un des membres fondateurs du Collège du Travail. 80 ans, nous avons sablé le champagne à la fin de l'été et Charles Pellegrini est toujours présent et actif pour faire vivre le Collège du Travail. Et il n'a pas hésité à nous suivre dans ce nouveau projet, une émission sur Radio Zone 93,8 MHz pour les vétérans de la lutte ouvrière. Dans quelques instants, après un petit peu de musique, nous lui donnerons la parole. Il nous racontera sa vie, un roman dans la lutte ouvrière. Alors, Monsieur Pellegrini, racontez-nous.
Je suis fils d'émigré italien, né à Locarno, au Tessin, en 1906. Mon père, de profession tailleur, ma mère, culottière, travaillait à la maison. J'ai été le cadet de trois sœurs qui, dès l'établissement de la famille à Genève, en 1908, tous, parents et sœurs, travaillaient dans la couture. À notre arrivée à Genève, notre première adresse a été rue de la Madeleine, juste en face du perron. Ma première maternelle fut l'école de la rue Toutes-Âmes. J'avais 3 ans et demi. En 1910, notre domicile changea pour les parquis rue Charles Cusin, appartement plus grand, mais au dire de ma mère, nous étions envahis de parasites. Il fallut changer de nouveau et mon père désirait trouver une arcade lui permettant de devenir artisan. C'était donc en 1912 qu'il y eut le transfert à plein palais au fond de la rue de Carouge au numéro 95, deux arcades avec arrière. Après une première grave maladie, fièvre diphtérique, ce qu'on appelait le croup à notre époque, vu le manque de salubrité au rez-de-chaussée, mon père loua en 3 pièces au 4e étage, logement situé en plein soleil celui-là. En 1916, mon oncle, frère de mon père, devenu chef de la gare de Naples, désira réunir toutes les familles et nous offrit le voyage qui dura 1 mois. Seule fois où nous tous réunis, nous avons été à faire un si long voyage.
Oui, je vous interromps parce que nous allons parler de ce voyage à Naples et ensuite vous nous raconterez un petit peu comment votre père, vous vous présentez comme fils d'immigré, mais votre père a été un immigré des grands voyages jusqu'en Amérique et avant de venir s'établir en Suisse où il était donc tailleur et il avait une petite arcade et une clientèle privée dans la rue de Carouge, c'est ça ?
Oui, rue de Carouge. Mais avant donc, alors si vous me posez la question de avant que j'existe, parce que naturellement mon père qui vivait en Italie, l'Italie a toujours été un pays de chômeurs endémiques, il n'y avait plus moyen de gagner sa vie, et mon père, sur les conseils de son beau-frère, qui avait déjà fait le voyage une fois, se décida de partir à ce moment-là à Buenos Aires. Et naturellement que ça pose un problème que mes parents, que mes sœurs, que mon père lui-même nous a raconté plusieurs fois, parce que c'était un voyage qui durait 1 mois, et c'était des navires où il y avait pour s'établir que le sol, avec obligé d'apporter tous les éléments pour vivre pendant 1 mois, parce qu'il n'y avait pas d'escale, et ça représentait naturellement une dépense extraordinaire.
Et je vous interromps, aussi un courage. Donc on s'embarque depuis Naples avec de la nourriture pour 1 mois et puis de la vie sur le pont avec les autres immigrés pour cette grande traversée, ce qui n'est quand même pas banal.
Oui, naturellement, c'était pas, je vous corrige, c'était pas de Naples qu'il partait, c'était à ce moment-là de Gênes, parce que il était marié à Casale et Monferrato dans le Piémont avec ma mère, et c'est de là qu'il partait. Mais de toute façon, chaque fois, ça représentait, oui, naturellement un courage, et puis un point évident que ma mère avait la chance de pouvoir, comme culottière, obtenir du travail à la maison, qu'elle faisait pendant qu'elle élevait mes sœurs.
C'est-à-dire que votre mère n'accompagnait pas votre père et qu'au fond, ses sœurs, vous m'avez raconté, sont nées au moment des retours de voyage de votre père parce qu'il revenait de temps en temps de ses grands voyages de 1 mois.
Ben, en général, oui, il faisait le maximum, je crois que c'était 18 mois qu'il a fait d'absence. Et forcément que ça a un peu marqué l'échelonnement de la naissance de mes sœurs. Parce que lui, ce qu'il aurait voulu, c'est d'emmener toute la famille en Amérique. Parce que la deuxième fois, il y avait son patron qui lui a dit, il lui avait réservé une place pour Sao Paulo. Et naturellement qu'à ce moment-là, il aurait voulu partir avec ma mère et les deux sœurs qui étaient déjà nées. Mais ma mère était terriblement difficile à décider. Et comme ça, ce fut son deuxième voyage.
Toujours tout seul.
Toujours tout seul. Et puis depuis là-bas, il envoyait l'argent pour que vive la famille. Naturellement, entre le moment où il arrivait, qu'il travaillait, puis qu'il économisait un peu, ça mettait souvent 6 mois avant que ma mère ait des nouvelles avec un peu d'argent. Maintenant, après, la dernière fois, il s'était rapproché de la Suisse parce qu'il avait un donneur de travail qui venait de Suisse. Et depuis Novare, où il avait élu domicile, il est reparti la troisième fois. Et cette fois-là, alors, il n'a pas voulu rejoindre l'Amérique du Sud parce qu'on lui avait donné des adresses plus alléchantes dans l'Amérique du Nord. Et c'est à San Francisco qu'il fit son dernier voyage. Où je ne sais pas, je ne me rappelle pas le temps qu'il y est resté, mais quand il nous racontait surtout ses voyages, où il disait que le plus terrible, c'était de vivre dans la cale du navire, où c'était interdit d'aller sur le pont à cause qu'il y avait trop de marchandises qui encombraient la surface. Alors c'était naturellement des voyages qui le fatiguaient énormément, et c'est pour ça que en retour de San Francisco, il a mis fin à ça pour venir en Suisse.
Mais je me demande s'il n'a pas mis fin à ça parce qu'il avait un fils à ce moment-là. C'est pendant son dernier voyage que vous êtes né, n'est-ce pas?
Non, moi je suis né au retour de son dernier voyage quand il a quitté Novare pour venir s'installer à Locarno. Et c'est parce qu'il avait les donneurs d'emploi qui étaient de Locarno qui lui fournissaient le travail à Novare. Et quand il a su que l'employeur lui assurait continuité de travail quand il serait plus près, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas besoin de venir chercher la marchandise comme il faisait, alors il a décidé de prendre toute la troupe et puis d'arriver à Locarno, où là je suis né en 1906.
Voilà.
Oui, alors dès notre installation rue de Carouge, j'ai fréquenté l'école de la Roseraie. Et après notre retour d'Italie, mon père m'a inscrit aussi au collège de Carouge, au cours d'italien, qui avait lieu 2 heures, 3 fois par semaine. En 1918, mon premier accident, rue de la Colline, a retenu naturellement une partie de ma jeunesse, car en rentrant de m'amuser dans les creux qui bordaient l'Arve, à l'époque, pensant passer devant un char attelé, le cheval m'a renversé et mes parents sont intervenus pour me transporter à l'hôpital. Mais, au dire plus tard de mon père, l'hôpital refusa notre entrée, car il fallait déposer un droit d'entrée qu'il ne possédait pas. Enfin, grâce au maire, M. Villemin, qui était client de mon père, qui lui faisait ses complets, il a pu s'arranger et mon hospitalisation a duré 2 à 3 mois, je ne me souviens pas exactement, car ayant la clavicule cassée, celle-là refusait de reprendre sa place. En 1920, après la guerre, mon père, n'ayant plus de travail, nous déménageâmes aux Eaux-Vives.
Monsieur Pellegrini, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre vie à l'école pendant la guerre de 14-18. Comment est-ce que ça se passait, l'ambiance à Genève en 14-18? Et puis la grippe espagnole, parce qu'on n'avait pas des morts tués, mais on avait des hommes qui tombaient comme des mouches par la grippe espagnole.
Oui, naturellement, je voulais du reste en citer quelques cas, mais forcément qu'après la guerre, la grippe espagnole est venue après la guerre, elle s'est produite après 1920. Mais pendant la guerre, nous avons quand même souffert. Je me rappelle qu'on allait à l'école avec des sabots, parce que le chauffage qui marchait à ce moment-là à la vapeur, naturellement, ne fonctionnait plus. Et puis, il fallait quand même continuer l'école avec le nombre de maîtres qui étaient disponibles. Naturellement, ça a passé, ça fait un espèce d'embarras, surtout pour les jeunes enfants qui devaient venir de loin jusqu'à cette école de la Roseraie.
Et puis alors, vous parlez du chauffage et j'ai aussi envie de vous demander de me parler de l'électricité. Est-ce que ce n'est pas à peu près à cette époque que vous avez vu les premières ampoules électriques dans votre maison?
Oui, naturellement, c'est arrivé un peu après la guerre, quand il y a eu commencé à établir le réseau électrique à Genève, mais à ce moment-là, nous, quand nous étions donc 95 rue de Carouge, nous avions comme éclairage le gaz, avec ces espèces de treillis qui s'enflammaient.
Les manchons.
Ces manchons, oui. Et puis autrement, eh bien, il y avait le pétrole. Naturellement, dans chaque chambre, nous avions une lampe à pétrole.
Mais cette première ampoule électrique, comment est-ce que vous l'avez vue?
Oh ben, naturellement que quand ils nous ont installé la lumière, il n'y avait pas, c'était tout avec des gaines qui étaient en bois, et puis on mettait qu'une ampoule au bout du fil, c'était encore des ampoules avec des filaments qui étaient simples, et puis qui éclairaient très peu dans le fond, parce que ils nous ont mis la lumière, et puis avant qu'on ait le compteur, ça a duré, je crois, plusieurs mois, où les ampoules n'ont cessé de brûler. Alors moi, ça m'étonnait tellement de voir cette lumière qui ne s'éteignait pas, que j'étais assis dans le vestibule et je regardais ça avec inquiétude.
Une autre époque.
Thank you.
Alors, l'école.
Mais entre 1912 et 1920, ma scolarité à la Roseraie devait fermer les principales observations qui ont tout de même bien orienté mes impressions. En effet, en quatrième année, nous avions un instituteur socialiste, Monsieur Jaurès, qui, pour notre instruction civique, nous conduisait le 1er mai à Plein Palais au meeting où il était orateur. Et puis, en sixième année et en septième année, avec M. Mingard, qui était directeur de l'école, et M. Sichler, qui était notre instituteur, nous firent collaborer à la sortie du premier numéro de l'écolier genevois. En fin d'exercice, nous avons eu la chance, avec M. Sichler, de faire notre première course d'école à la montagne. But, la Pointe-Pelouse avec bivouac à Flaines, ce qui mérite aussi une mention est que notre dernière classe, dite complémentaire, était mixte. La cause, le manque d'instituteurs après 1918. Mais la raison réelle en fut la grippe espagnole, la peste qui régna à Genève pendant 2 ans. Les morts étaient enterrés la nuit. Chez nous, seule ma sœur cadette en fut atteinte et heureusement guérie. En 1920, là, j'ai commencé à l'école de commerce où je n'avais aucune passion parce que je n'avais aucune passion pour la couture qui régnait chez moi. À la maison, les cravates, les chemises qui occupaient tous les coins de l'appartement, j'en avais une indigestion. Je fis 2 ans à l'école de commerce et au sortir avec un accessi, j'ai passé un apprentissage chez M. Imbert, denrées alimentaires en gros, 3 ans et 1 an comme réassujetti. Pendant cette période, nos loisirs se fixèrent sur la montagne. Nous étions frais, 3 copains. G. Volschlag, qui faisait les courses chez Rouveau, chez Arrive, Charles Bron, Tipo chez Kundig, et moi, apprenti chez Imbert. Notre début, le Salève. Il me rappelle pourtant y avoir rencontré un solitaire en difficulté, et sa connaissance nous permit d'adhérer à son groupement, les bons templiers, anti-alcooliques complets, qui recherchaient des jeunes pour ouvrir la loge floréale.
Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que c'était que cette loge floréale?
Alors, ces bons templiers, c'était une espèce de dépendance des francs-maçons, qu'on a su après, naturellement. Mais ce qu'il y avait, c'est que c'était des gens qui avaient beaucoup de moyens et ils désiraient former une loge de jeunes. C'est ce qui est arrivé dès que nous trois, plus monsieur qui nous a dirigé vers eux, nous a fait adhérer. Et là,